Bonjour. J'ai l'impression qu'il y a toujours, comme dans les romans, les histoires de Bashevis-Zinger, n'est-ce pas, un D-book, un esprit malin qui falsifie à chaque fois ce titre. C'est le quatrième cours aujourd'hui et pas le troisième. J'ai oublié de rectifier cela. Par ça, la date est correcte. Le sous-titre est correct. Il faudrait ajouter le livre 1. C'est sous cette intitulé d'exégèse divine et exégèse naturelle que je résume les parties du livre premier de Senjusho que nous allons voir aujourd'hui. Évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, il y a 121 épisodes intitulés Koto, n'est-ce pas, de faits rapportés dans le Senjusho, et nous ne pourrons bien sûr pas en donner même des aperçus sommaires. Je ferai une espèce de synthèse à la fin, mais de ces 121 épisodes. Et pour chaque livre, j'ai choisi de présenter quelques passages qui pourront nous renseigner davantage sur le rôle qui est donné à la pratique, à la poésie dans la pratique religieuse centrée sur Saigyo. Je ne répète pas ce que j'ai dit la dernière fois sur les relations entre Saigyo et ce texte. Alors, l'idéal, bien sûr, serait de comparer chaque épisode que nous avons aux versions que nous en trouvons dans les deux antécédents de ce recueil, les deux antécédents du Senjusho, dont nous avons dit que c'était le Hoshinshu d'un côté, de Kamono Chome, et le Kankyo no Tomo de l'autre, donc de ce moine Tendai qui s'appelle Keisei, qui sont antérieurs et qui se situent, dont le Senjusho peut être considéré comme un prolongement, mais avec des originalités, et surtout une originalité qui s'y dessine, c'est le rôle donné à la poésie, le rôle salvifique donné à la poésie, à la différence des deux premiers ouvrages. De toute façon, comparer les trois textes se limiterait à une simple énumération des différences dans la narration, dans les styles, etc. Ce n'aurait pas un grand intérêt et apporterait peu dans la perspective qui est la nôtre, donc de cette relation langagière entre la poésie et la pratique religieuse. Alors, en plus du rôle des poèmes que nous avons déjà défini, il y a aussi des poèmes, évidemment, dans le Hoshinshu, par exemple. En particulier, dans le premier épisode que nous allons voir aujourd'hui, il y a un poème qui est mentionné par Kamono Chome, mais dans un contexte tout à fait différent qui n'apporte pas du tout la même chose. Donc, en plus du rôle de ces poèmes, donc une caractéristique importante du Senjusho, que nous avions déjà constaté la dernière fois dans la dernière phrase de la préface, n'est-ce pas, qui mentionnait les shimmei, c'est-à-dire les dieux. Donc c'est le rôle attribué au kamigami, au dieu japonais. C'est un texte foncièrement bouddhique, bien sûr, mais qui est médiatisé, encore une fois, je reprends ce mot dans l'acception originelle, n'est-ce pas, en profondeur par la présence des dieux. Et ces dieux qui constituent la justification de la poésie, selon ce que nous avons déjà vu au fil de toutes ces années. Alors, avant de voir plus en détail une histoire qui nous paraît plus représentative, jetons très rapidement, enfin, qui nous paraît représentative, pas plus, pas davantage, mais nous allons l'étudier un peu. Jetons très rapidement un coup d'œil sur l'épisode qui ouvre le recueil. C'est un épisode que nous avons déjà vu dans le séminaire. C'est pour ça que je ne m'y attarderai pas trop, mais je donnerai quelques correspondances intéressantes. Il s'agit d'une narration historique s'ouvrant sur le mot trois fois. Ah oui, avant de commencer, je voulais simplement vous donner quelques illustrations de ce fameux épisode où Saigyo jette sa fille au bas de l'Engawa. Vous voyez, sa fille qui essayait de le retenir d'entrer, de quitter la maison, shukke, n'est-ce pas, nyudo suru. Voici une illustration. Vous voyez que celle-ci est assez réaliste. La pauvre petite est vraiment kerarete, n'est-ce pas, jetée à coups de pied au bas de enkara, tsikara kerarete. Voici une autre, je ne sais pas si on le voit très bien, un épisode qui est un peu moins violent dans sa représentation, une illustration qui est un peu moins violente. Et puis cela, c'est, un, c'est, c'est tiré d'un feuilleton télévisé japonais où vous voyez la même façon édulcorée. Donc c'est vraiment la première qui est beaucoup plus... Voilà. Alors, donc, c'est un... donc, c'est une narration qui commence par le mot « mukashi », autrefois. Et si nous en tenons à la préface du pseudo-saïo que nous avons vu la dernière fois, où il était annoncé qu'il y avait 80 épisodes, 80 koto, 80 faits rapportés pour... la narration, si nous pensons que après tout c'est pas impossible, n'est-ce pas, on peut dire que la différence entre 80 et 120 montre qu'à l'origine il s'agissait vraiment d'un show, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, c'est-à-dire un dossier à portable rassemblé par Saigyo pour lui donner des exemplaires. Et à ce moment-là, ce mukashi, autrefois, qui, j'y reviendrai tout à l'heure, qui indiquerait quelque chose d'objectivement ancien, pourrait se rapporter, et qui n'est pas du vivant de Saigyo, donc, pourrait se rapporter, en effet, au dossier originel. Enfin bon, c'est une supposition. Alors, le héros de l'épisode est un moine de l'école Tendai, qui est appelé systématiquement ici dans les manuscrits Soga, vous voyez avec Saul, le moine, n'est-ce pas, écrit. Et vous le trouvez parfois écrit, par exemple, dans le Hoshinshu, mais tout dépend aussi des manuscrits. Zoga avec le caractère Tsuchihen, n'est-ce pas, avec la clé de la terre, donc qui veut dire masse, n'est-ce pas, augmenter. Donc c'est Zoga Shonin, mais ici systématiquement Soga Shonin. Donc, c'est un religieux de l'école Tendai qui s'appelle, dont le nom correctement attesté est bien Zoga. Mais dans les manuscrits du Senjushu, nous avons Soga, dont on possède les dates de naissance, n'est-ce pas, et de mort, 917-1003, qui était le grand disciple, l'un des principaux disciples du grand maître du Tendai, Ryogen, n'est-ce pas, Jiedaishi, qui est l'un des grands rénovateurs du Tendai de la fin du Xe siècle, et en particulier, bon, j'en ai parlé un peu dans le séminaire, c'est lui qui est le responsable, l'origine du renouvellement de la scolastique Tendai, et en particulier qui a lancé la grande tradition des disputations, des rongi du Tendai. Alors, je vous donne ici quelques phrases simplement de ce texte. Il y eut autrefois un saint homme, Shonin, n'est-ce pas, du nom de Soga. Dès son plus jeune âge, Itoke Nakarikeru Yori, profonde était son aspiration à l'éveil, Doshin Fukakute. Donc, il aspirait à l'éveil, mais ce n'était pas encore le Hoshin, n'est-ce pas, ou Hotsubodaishin, c'est-à-dire le déploiement de la pensée d'éveil, c'est le déclic, si vous voulez, qui vous met en marche dans le premier pas dans la carrière de Bodhisattva, le Bosatsugyo, ou le Bosatsudo, n'est-ce pas, qui vous fait aller de ce Hoshin jusqu'à l'éveil correct et parfait sans supérieur. Donc, c'est quelque chose de très précis, une décision qui engage l'existence, et ce n'est pas seulement une aspiration. Ce n'est pas seulement un doshin. Donc, son aspiration était profonde et il fit une retraite de 1000 nuits, le Senya, n'est-ce pas, comme on dit, au pavillon du principe fondamental, le Kompon Shudo, qui est le centre de Renyakuji, le monastère du Tendai sur le mont Hiei à Kyoto. Bon, ce n'est pas la peine de rappeler tout ça. Donc, il fit une retraite de 1000 jours sur ce... au Tendai pour au Tendai-san même je crois que vous avez Tendai-san, n'est-ce pas, le Tendai-san, et c'est l'une aussi de ces caractéristiques japonaises, de ces transpositions géographiques et religieuses de la Chine sur le Japon. Le Tendai-san, vous savez bien évidemment que c'est le Tiantai-shan qui n'est pas très loin de Shanghai, où est née l'école Tiantai chinoise, et le mont Hiei, qui est quand même beaucoup plus modeste en altitude, c'est orné, en plus de son nom de Hiei, c'est aussi orné du nom de Tendaisan. Donc ici, il faut transposer, il n'est pas allé en Chine, mais c'est à Kyoto. Alors, ne nous attendons pas ici sur la nature exacte de la pratique désignée par les mille nuits, n'est-ce pas, qui peut s'entendre de ça fait allusion à l'une des pratiques les plus prestigieuses du Tendai, qui est la retraite de presque 3 ans, qui est vraiment le parangon des pratiques de l'école Tendai de l'époque. Ça doit être très efficace. N'est-ce pas? Mais, comme le dit la seconde ligne, et d'ailleurs, alors, si nous faisons d'abord une petite comparaison avec le Hoshinshu, donc de Kamono Chome, dont la cinquième histoire du Hoshinshu, qui a été traduite par Jacqueline Pigeot, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez vous y reporter. Dans le Hoshinshu, vous avez cet épisode aussi avec Zouga, et la pratique des mille nuits est efficace. Il va au mont Hiei, il y passe 1000 nuits et il déploie effectivement la pensée d'éveil, le Hotsu Bodaishin, n'est-ce pas? Mais ici, justement, c'est l'une des originalités, et vous allez voir pourquoi, n'est-ce pas? Ici, il est bien dit comme « Nao makoto no kokoro ya tsukikanete haberiken ». Il semble, malgré cela, n'est-ce pas, la véritable pensée, semble-t-il, se refusait à lui. Et ici, échec donc du bouddhisme le plus prestigieux Japon de l'époque. Et Harutoki, un jour, n'est-ce pas, il se rend Tadashitori, Ise Daijingu ni Modete. Il se rend tout seul au grand sanctuaire d'Issé. Je ne répète pas, on l'a déjà suffisamment dit. Issé, c'est je ne dirais pas l'anti-bouddhisme, mais le non-bouddhisme par excellence. Vous savez que dans le sanctuaire d'Issé, de toute éternité, si j'ose dire, le bouddhisme est tabou. C'est-à-dire qu'on n'a pas de. Le nom même est prohibé, le nom des moines est prohibé, vous ne pouvez pas appeler un moine à Issé, vous ne pouvez pas parler des sutras, etc. Et comme vous le savez, c'est la conséquence d'un serment, d'un chigiri, n'est-ce pas, qui a eu lieu, par lequel, entre la divinité Amaterasu, a en quelque sorte validé le bouddhisme d'Issé, le bouddhisme, en faisant une sorte de creux de vide à Issé. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus, il faudrait pratiquement faire une année de cours pour parler des conséquences de cette idée très, très originale. Mais donc, il y a cet épisode. Donc, une fois le bon Hiei ayant échoué, il se rendit seul au sanctuaire d'Issé afin d'implorer par ses prières Kodeo Kishoshite, n'est-ce pas, Kishoshite Amaikeroni. Il prie demande par ses prières d'avoir la pensée d'éveil et Yumeni Tamaoyo, et ainsi qu'il lui apparut en rêve, et ce qui lui apparaît en rêve, c'est une apparition, justement, Jigen, n'est-ce pas, écrit avec le caractère Shimesu et Gen, Genzai no Gen, n'est-ce pas, c'est donc l'apparition d'un être bouddhique, d'une entité bouddhique ou d'un dieu. Et vous savez, au sanctuaire d'Issé, c'est bien sûr une divinité. Donc cet épisode est très intéressant. Le contraste avec l'épisode du Hoshinshu est éclatant. Alors que dans le premier, une pratique prestigieuse, attestée depuis toujours au mont Hiei, porte, comme on pouvait s'y attendre, ses fruits, le Senjusho nous livre en termes mesurés. est d'autant plus frappant qu'ils sont anodins, comme vous le voyez, et que l'auteur ne cherche nullement à en exagérer l'expression, un constat d'échec. Nous pouvons en passant relever combien cette idée de l'inefficacité de la pratique Tendai traditionnelle est en harmonie avec l'époque, l'époque vraisemblable de la composition de l'œuvre. N'oubliez pas que dans le cas du Senjusho, nous sommes au milieu du XIIIe siècle. Or, qu'est-ce que le milieu du XIIIe siècle ? C'est une époque où la déception à l'égard de l'école Tendai est une sorte de topos, un lieu commun dans la biographie des grands religieux de l'époque. Tous ces grands religieux qui sont considérés comme les fondateurs de ce que l'on appelait encore naguère le Kamakura Shinbukyo, n'est-ce pas, le nouveau bouddhisme de Kamakura. Il suffit de mentionner les noms de Shinran, de Dogen, de Nichiren. Ils sont tous des religieux qui ont commencé leur pratique religieuse dans le Tendai et au Mont Hiei. Et ils en sont tous descendus parce que, justement, ils n'étaient pas satisfaits d'une pratique que l'on taxait de scolastique et d'érudite et donc désincarné. Donc, de ce Makoto no Kokoroya, cette véritable pensée d'éveil, Makoto est ici le qualificatif de Hotsubodaishin, n'est-ce pas, et ne peut pas s'atteindre dans le cadre de la pratique du Tendai. Donc, cet épisode est tout à fait dans l'esprit de ce Shinbukyo du XIIIe siècle. Or, cette apparition, ce Jigen, lui donne en rêve une instruction précise qui est de prime abord peu compréhensible. Doshin o okosan tomo waba konomi o mito na omoison. Si tu veux déployer la pensée d'éveil, ne considère pas ce corps comme corps. Je fais bien sûr exprès de traduire très, très littéralement cette phrase, car la suite nous indique qu'elle aura besoin d'une interprétation. Et en effet, le futur saint homme, à son réveil, Uchi Odorokite, c'est un terme qui revient souvent dans le Senjusho, n'est-ce pas ? Se réveilla brusquement, Odoroku, ici ne veut pas dire s'étonner, mais s'éveiller, se réveiller. Donc, le saint homme, à son réveil, glose tout de suite cette proclamation divine, n'est-ce pas ? Konomi o mito na omoison. Cela signifie certainement de rejeter Myori, Myori o steru, tsu, n'est-ce pas ? De rejeter le renom et le lucre, le nom que l'on a dans le monde et l'intérêt pour l'intérêt pour les biens de ce monde, n'est-ce pas ? Myori. Eh bien, rejetons-les. Nous avons tout d'abord ici un excellent exemple de relation cachée entre la langue japonaise et la langue chinoise ou les expressions chinoises qui la sous-tendent. N'oublions pas que nous sommes dans un contexte littéraire bouddhique, dont le centre sémantique, si l'on peut dire, est à chercher dans les expressions bouddhiques chinoises. C'est l'une des idées que je définis sous le terme de hiéroglossie. Si nous lisons ce bref passage de la façon que nous avons cherché à mettre en évidence depuis le début de nos cours, c'est-à-dire dans une relation dialogique entre les langues, nous pouvons retrouver les liens sémantiques entre les deux dimensions. Mi, le corps, est bien sûr le sino-japonais shin, que vous avez le dernier caractère de ce tableau. Et il est l'objet du verbe tsu, steru en japonais moderne, qui se lit en sino-japonais sha. Nous avons donc ce tsu apparaît dans le texte même, n'est-ce pas ? Mi et ce tsu. Le terme de tsu vient après dans la glose que fait zoga ou soga ici. Donc cette expression avait un sens très concret qui impliquait de renoncer à sa vie, soit renoncer à sa vie, à son corps, donc à soi-même, mais à son corps et à sa vie, donc pour le bien des êtres, que ce soit pour l'obtention de la loi ou pour le bien des êtres mêmes. Un exemple très célèbre On est bien sûr, on s'en trouve dans les Jataka, n'est-ce pas, les Honjo, les vies antérieures du Bouddha. Et l'une des plus célèbres, c'est la renonciation au corps pour nourrir la tigresse. Vous savez, Shashin Jiko, c'est-à-dire Myo Sutete Torao Yashinao, que l'on trouve illustré dans l'art de l'Asie orientale, de l'Asie centrale jusqu'au Japon. On connaît aussi l'épisode du jouvenceau des monts neigeux, n'est-ce pas ? Sessen Doji, c'est le Sessen, c'est-à-dire Yuki no Yama, Doji Warabe, Warabe no Ko. Donc ce jeune homme qui pratique l'ascèse en Himalaya, Sessen c'est l'Himalaya, et qui offre son corps à un ogre, un rakshasa, un rasetsu, pour connaître le fameux distique, la seconde partie du célèbre quatrain, n'est-ce pas, sur Shogyo Mujo, n'est-ce pas, les composés transitoires. Bon, je ne vous rappelle pas tout ça, mais simplement, Shashin, c'est cela. L'ogre lui propose, l'ogre qui avait prononcé la première partie du distique, s'arrête. Le jeune homme lui propose de lui offrir son corps en pâture pour qu'il lui donne d'abord la seconde partie. Et la seconde partie est donnée, il la grave sur un rocher et il se jette dans les bras, ou dans la gueule de l'ogre qui se transforme en réalité, c'était une épreuve en Dieu, n'est-ce pas ? C'est une épreuve en un Dieu et c'est une épreuve initiatique. Donc, il y a un sens aussi que l'on pourrait qualifier d'édulcoré et qui est précisément celui auquel il est fait allusion ici. Et que Soga, le pratiquant, comprend instantanément, celui de renoncer à sa condition présente pour entrer dans la vie religieuse. C'est le sens le plus fréquemment attesté dans la littérature médiévale japonaise, où il est plus ou moins synonyme d'ailleurs de shukke, c'est-à-dire ieo izu, sortir de la maison. Nous avons dans ces deux acceptions, l'une littérale, l'autre figurée, les deux extrêmes de sens de l'expression. Mais il serait cependant étonnant que cela fasse l'objet de la révélation divine. Et l'objet même, c'est la conséquence qu'en tire aussitôt Soga. Je vous cite le texte, je ne l'ai pas reporté ici parce que nous l'avions déjà vu en séminaire. Donc, il se défie du pourpoint et de la robe qu'il portait pour les donner aux mendiants, et ce fut sans porter le moindre linge qu'il s'en retourna, nu comme un ver. Ceux qui virent la scène en furent stupéfaits et pensèrent qu'il était devenu fou. Et devant ce spectacle lamentable, l'entouraient en s'exclamant « Quelle horreur !» « Utateya !» Mais lui n'en était pas le moins du monde perturbé. Nous voyons ainsi que le pratiquant descend du sanctuaire, revêtu, pour ainsi dire, de son seul corps physique. Il est clair, à partir de la mise en application du précepte divin, qu'il a compris le premier « mi », n'est-ce pas, « mi o mito nao moiso », au sens de conditions sociales et de tous les signes qui indiquent celle-ci. Et plus intéressant encore, qu'il glose ce « mi » comme « myori », renom et lucre, qui sont deux des objets des cinq sortes de désirs. Vous savez, le bouddhisme classe les yoku, les désirs en cinq, go-yoku, les cinq désirs. Et donc, dans ces cinq désirs, il privilégie le myori, le renom et le lucre, les autres étant évidemment les désirs provenant de la soif et de la faim, n'est-ce pas, onjiki-yoku, et le désir de sommeil. Swimming. Nous avons donc ici un jeu d'une part entre les deux dimensions chinoises et japonaises de l'expression shashin, et je peux aussi ajouter que en chinois moderne, shoshen, n'est-ce pas, la prononciation actuelle de shashin, n'a pas tout à fait, me semble-t-il, le sens figuré japonais qui est vraiment renoncer à sa condition et entrer en religion. Ce n'est pas attesté dans les dictionnaires de la langue chinoise moderne, mais ça veut dire se sacrifier, c'est-à-dire se sacrifier pour la patrie, etc., etc. C'est-à-dire ça implique vraiment un sacrifice physique, se sacrifier pour une cause aussi. Mais il n'y a pas cette idée d'entrer en religion, shukke, qui est attestée en japonais ancien. Dès le japonais médiéval, je veux dire. Donc, nous avons en plus de ces distinctions entre l'expression chinoise et l'interprétation japonaise, les différentes nuances de sens déployées en japonais. Mais il y a encore un point important qui se dissimule ici, le fait que la biographie de Saigyō lui-même, en se fondant sur de nombreux poèmes de Saigyō effectivement attestés dans son corpus, de nombreux poèmes font allusion à l'abandon du monde, yo osuteru, ou l'abandon de la condition sociale, mi osuteru, et d'ailleurs on emploie souvent dans ce contexte de Saigyō l'expression même miori osuteru. Nous citerons nous en citerons un pour commencer, fort connu, qui pourrait d'ailleurs constituer comme un contrepoint à l'épisode que nous avons sous les yeux. Je vous le donne ici, bon, vous verrez après pourquoi je vous le donne. Je vous le donne justement parce qu'il n'est probablement pas de Saigyō. Après, nous reviendrons sur des poèmes de Saigyō. Il n'est pas attesté dans le corpus de Saigyō, mais il est considéré au Japon comme un poème, et peut-être que les gens le connaissent ici, comme un poème typique de Saigyō. Or, il est attesté, je reviendrai là-dessus, relativement tardivement, et il est connu à cause de la variante. Vous voyez, c'est un waka, donc, et les deux derniers vers sont deux vers de sept syllabes, et le célèbre poète Basho, le célèbre poète de haïku du XVIIe siècle, a repris cette variante. Alors, je vous donne d'abord le poème de attribué à Saigyō, Ste hatete, miwanaki mono to omoedomo, yuki no furuhi wa sabuku koso are. C'est un peu plein d'ironie, n'est-ce pas? L'ayant pleinement rejeté, j'ai beau me dire que ce corps n'existe plus, omoedomo, j'ai beau penser que ce corps n'existe plus, le fait est que les jours de neige, j'ai encore bien froid. Nous voyons la tonalité ironique d'autodérision de ce poème. Il apparaît comme contrastant avec l'interprétation radicale que fait de ce même concept l'ancien sage modèle qui était Soga. Il y aurait beaucoup à dire sur ce passage et ses relations avec la poésie de Saigyō lui-même. Remarquons d'ailleurs... Je vous donne aussi l'interprétation. En réalité, ce poème se trouve dans un petit, dans une illustration, dans un portrait de Saigyō, Saigyō Zō-san, n'est-ce pas ? Portrait plus éloge de Saigyō, qui était répandu à l'époque d'Edo. Et vous voyez que notre Basho ajoute ces mots qui sont tout à fait intéressants, que je pourrais traduire. Il reprend encore le contre-pied du pseudo-saïo, vous voyez, et transforme le dernier caractère, yuki no furushiwa, les deux derniers vers, yuki no furushiwa saboku koso are, lorsqu'il neige, les jours où il neige, où la neige tombe, j'ai vraiment bien froid. Il lui donne un autre distorsion. Hana no furushiwa, ukadeko sosude. Les jours où tombent les fleurs de cerisier, n'est-ce pas, les jours de printemps, ukadeko sosude, littéralement, je suis transporté de joie. Je ne me sens plus de joie, littéralement, je flotte, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je ne me sens plus de joie. Et comme on peut s'y attendre, ce poème, bien qu'apocryphe, se situe dans le prolongement d'une longue série de poèmes dont Saigyō, cette fois, est indubitablement l'auteur, et que nous ne pouvons pas énumérer ici, mais qui porte sur le thème du renoncement au monde, yo-os-tsu, ou du renoncement au corps. Nous en trouvons deux cités dans le Saigyō Monogatari, dont je vous ai déjà parlé, n'est-ce pas, ce récit biographique du XIIIe siècle, peut-être contemporain de notre Senjūshō, et qui reprend aussi, dans ses poèmes, ils reprennent les mêmes idées de renoncement, de statut social et de renom. Le premier, donc, de Saigyō, et je vous donne l'endroit où vous trouverez dans le très pratique Saigyō Zenkashu, n'est-ce pas, le recueil complet des poèmes de Saigyō qui est disponible maintenant dans la petite série Iwanami Bunko. Je vous donne donc celui-ci. Et vous voyez que selon les versions, vous avez deux variantes au premier vers. Vous avez soit yo osutsuru, soit mi osutsuru. Renoncer au monde ou renoncer au corps. Yo osutsuru shito wa makoto ni sutsuru kawa. Vous aviez tout à l'heure makoto no doshin, n'est-ce pas? Stenu shito koso sutsuru narikere. Bon, un jeu de mots assez difficile à rendre. Celui qui renonce au monde, véritablement y renonce-t-il? Mais c'est à qui n'y renonce pas qu'il convient de renoncer. Vous voyez encore le double. Je vous donne mon interprétation de ce poème qui est différente de plusieurs. De beaucoup de. D'impression que j'ai trouvé et voire de traduction, mais je pense que c'est bien cela que ça veut dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il faut renoncer à son état de non-renonçant. Vous voyez, c'est une double négation en quelque sorte. Il faut renoncer à la personne que nous sommes qui n'arrive pas à renoncer au monde. Et ça sera le véritable renoncement. C'est-à-dire que même si nous sommes trop faibles pour renoncer, eh bien, il faut renoncer à cette personne trop faible que nous sommes. Et ce poème, dans le Saigyō Monogatari, est couplé à un autre poème qui est le suivant, et qui ne se trouve pas dans le même corpus, d'ailleurs. Ici c'est le Sankashu, l'autre provient d'un autre corpus moins connu. Je n'ai pas peine d'insister ici. Alors là, yo itou nao danisawa todome okite kazuna nanumi no omoide nisen. Alors vous voyez le na, n'est-ce pas, nous avons mis Odin, ici c'est le na, le renom. De détester le monde, le renom pour le moins aurais-je laissé. De ce corps qui ne compte pour rien, ce sera le souvenir. Vous voyez encore une fois les paradoxes qu'aime beaucoup Saigyō, n'est-ce pas? Il renonce au renom, au nom, à la célébrité, et ce sera ce renoncement au nom, cet anonymat, qui fera qu'il reste dans la mémoire des hommes, n'est-ce pas? Donc c'est encore une fois, évidemment tout cela est pétri de bouddhisme, n'est-ce pas? La négation de l'affirmation, chaque phrase se défait elle-même en quelque sorte. Bon, nous sommes bien habitués à cela dans les textes bouddhiques. Alors bien que le second poème apparaisse comme moins décidé que le premier, il tente au moins de persuader le lecteur de la sincérité de son dégoût du monde, et peut être donc considéré comme à l'opposé de l'ironique paradoxe de tout à l'heure, n'est-ce pas, sur le celui qui a renoncé au monde mais qui a quand même froid sous la neige, au corps mais qui a quand même froid sous la neige. Nous avons certes d'autres poèmes de Saigyō sur le même thème, qui semblent exprimer le constat de son impuissance à réaliser ce shashing qui est au cœur du déploiement de la pensée d'éveil. Par exemple, celui-ci aussi, qui est dans le Sankashu, encore une fois. Oshikaranu miyosite yarade furuhodo ni nagaki yami ni ya mata mayoina. Tant que sans renoncer à un corps dont je n'ai cure, qui ne m'importe pas, je passerai mes jours. Donc, tant que sans renoncer à un corps dont je n'ai cure, je passerai mes jours. Devrais-je longtemps encore errer en d'éternelles ténèbres ? Nous reverrons ces allusions. Vous voyez que Nagaki Yami Niya, le Nagaki Yami, la longue obscurité, ce que j'ai traduit par les éternelles ténèbres, c'est une réflexion en japonais de Nagakiyo, la longue nuit, que vous connaissez par des waka très, très célèbres, sur lesquels je ne reviens pas, n'est-ce pas ? Et qui est encore une fois, une traduction en japonais d'une expression bouddhique que l'on retrouve dans le Sutra du Lotus, Jōya, Jōya, c'est-à-dire la longue nuit, qui veut dire tout simplement, qui est une traduction d'un mot sanskrit qui signifie simplement longtemps. Mais la traduction littérale du sanskrit, la traduction littérale et fautive du sanskrit, a transformé ce longtemps en longue nuit. Et évidemment, c'est une expression beaucoup plus poétique qui a pu se déployer du chinois en japonais et que nous retrouvons ici. Il est bien sûr évident que l'éternel dilemme du renonçant hante les poèmes de Saigyō. Mais une fois que nous avons constaté la présence constante de ce thème au fil de sa poésie, et plus encore dans ce qu'en fit la postérité, qui, même sous forme apocryphe, comme nous venons de le voir, a développé les paradoxes du renoncement, nous sommes mieux à même de comprendre l'intérêt de cet épisode initial, programmatique du Senjūshō, où c'est une apparition divine au sanctuaire d'Issé qui fait l'exégèse décisive et efficace pour le progrès spirituel du moine modèle de Saigyō. Donc, c'est cette exégèse de Shashin, d'un terme important de la pratique bouddhique. La fin de ce premier épisode nous renvoie à l'importance des dieux. Après un passage sur la doctrine bouddhique où sont notamment mentionnés deux importants ouvrages scolastiques, le Yuishiki, sans doute ici le Jo Yuishiki-don, n'est-ce pas, c'est-à-dire le traité sur la réalisation du rien que conscience, et le Makashikan, la somme de méditation dont nous avons déjà suffisamment parlé, l'un des grands textes du Tendai. Les trois dernières phrases de ce premier épisode reviennent aux dieux et au sanctuaire d'Issé. Il y a donc une longue digression bouddhique et les trois dernières phrases sont les suivantes. Je ne les ai pas mises ici parce que nous l'avions vu en séminaire, mais je vous les lis lentement. Et cependant, que le saint homme Soga ait pu renoncer aussitôt à toute pensée de renom et de lucre, n'est-ce pas extraordinaire ? Mais cela, si ce n'était grâce à l'auguste aide, on tasque. Je traduis le on et les mi, n'est-ce pas, par auguste, suivant cela Bernard Franck, pour bien insister sur le côté surnaturel de la chose. Mais si ce n'était grâce à l'auguste aide du grand sanctuaire d'Issé, Issé Daijingu, comment un tel état d'esprit eût-il été possible ? Ce corps, recouvert des nuées de la convoitise et de la sottise, livré aux ténèbres éternelles, Tokoyami, vous voyez exactement, c'est la même chose que le Nagakiyami que vous avez ici, du poème de Saigyō. Ce corps, donc recouvert des nuées de la convoitise et de la sottise, livré aux ténèbres éternelles, est lavé, susugarete, par les flots de la rivière Isuzu, la rivière qui coule auprès du sanctuaire d'Issé, n'est-ce pas, qu'on appelle aussi le Mimosusogawa, comme nous l'avions vu la dernière fois, et se trouve dissipé dans l'auguste lumière On Hikari, n'est-ce pas, et vous voyez tout de suite l'allusion à Wako Dōjin, Hikari o Yawaragete, vous connaissez l'expression, nous la reverrons souvent, donc il se trouve dissipé dans l'auguste lumière de la grande déesse Amaterasu. Nous lui devons encore et encore reconnaissance. En quel âge cela se pourrait-il oublier ? Nous voyons donc que dès le premier épisode, le ton caractéristique du Senjūshō est donné, que l'on peut mieux définir en nous reportant à ses antécédents littéraires. Ce qui est enseignement purement bouddhique dans le Hoshinshū est ici médiatisé par un détour qui mène au plus grand sanctuaire purement Shinto du Japon. Mieux encore, l'apparition divine, Jigen, se manifeste par une exégèse, ambiguë il est vrai, d'un dogme bouddhique bien connu. Exégèse qui se révèle plus efficace que les mille nuits passées au plus prestigieux des monastères bouddhiques japonais. Bien qu'il n'y ait pas de poème cité, nous avons vu que l'expression Miyosutsu est au centre de nombre de poèmes de Saigyō, ou attribué à lui-même. C'est un premier indice d'un procédé que nous retrouvons assez souvent dans notre texte, mais qu'il est assez difficile de cerner, tant ces allusions peuvent être élusives. Nous verrons de loin en loin que certaines phrases semblent être prises à des poèmes de Saigyō. Je vous en donnerai, en temps voulu, quelques exemples, mais ici nous en avons déjà un, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas le temps de nous attarder longuement sur le second épisode que nous appellerons de son titre le plus répandu, l'apparition de Gion, Gion Jigen. Il y a un autre titre que nous verrons et qui implique le katabida, que je vous mets ici, n'est-ce pas ? Donc, n'en retenons que l'essentiel. Il relate l'histoire d'un ermite de Shirakawa, à l'est de Kyoto, alors qu'il était encore attaché aux choses de ce monde, avant de se bâtir un ermitage. Et à ce moment-là, lorsqu'il était donc maître de famille, son héritage avait été détourné de façon frauduleuse. En conséquence, il avait fait une retraite de 7 nuits, cette fois, vous voyez, on reprend le shichiya, au Yakata Jinja, c'est-à-dire au grand sanctuaire de Gion, n'est-ce pas, qui est à Kyoto, en priant la divinité de l'inspirer sur la façon de recouvrer son bien. « Kotowari tamae », demande-t-il à la divinité. « Donnez-moi une raison, c'est-à-dire un moyen d'agir. » Il est donc bien clair ici, et vous voyez le contraste avec le premier, l'idée de tout à l'heure, il est donc bien clair ici que la visite au Dieu repose sur la plus élémentaire motivation religieuse, qui est souvent représentée comme la base de la religiosité japonaise, c'est-à-dire l'idée des bénéfices mondains, n'est-ce pas, les genze diyaku. Les bienfaits matériels, on va au sanctuaire ou même au temple pour avoir des bienfaits immédiats et tout à fait comptabilisables. Mais l'oracle divin est tout à fait inattendu. En effet, à la 7e nuit, la porte de la chapelle s'ouvre et une voix imposante, Kedakaki Onkoe, une auguste voix imposante, déclame. Nagaki Yono, kurushiki koto wo omoekashi, kari no yadori wo nani ni nagekura. Alors, vous voyez encore une fois le jeu de mots. Nagaki yo no kurushiki koto wo. Alors, si vous pensez à yo, écrit comme ici avec le monde, n'est-ce pas ? Le sekai no yo, le nagaki va se rapporter à kurushiki. Nagaki yo no kurushiki koto. Les douleurs de ce monde, les douleurs éternelles de ce monde. Mais si vous pensez que yo s'écrit aussi avec le caractère nuit, et nous revenons à l'idée de tout à l'heure, c'est Nagakiyo no kurushiki koto, les souffrances de cette longue nuit, et nous reprenons l'expression bouddhique Jōya, c'est pas qui caractérise l'état de non-éveil dans lequel errent indéfiniment les esprits, la pensée non libérée. Bon, je n'insiste pas là-dessus, mais... Donc, de ce monde infini, alors j'ai essayé de traduire les deux, de ce monde infini, les infinies douleurs. Réfléchis-y donc. Pour une demeure provisoire, pourquoi pousser des soupirs ? Passons sur le fait que ce poème se retrouve dans d'autres recueils, toujours attribué à une divinité Shinto, qui ne sait pas forcément celle de Yakata Jinja. Passons aussi rapidement donc sur le jeu de mots Nagakiyo, qui montre d'ailleurs encore une fois les capacités exégétiques des divinités Shinto, n'est-ce pas ? Puisque le kami s'exprime en termes bouddhiques. Il est évident que pour notre ermite, enfin, qui n'était pas encore ermite à l'époque, il s'agit d'un oracle, Taksen, c'est pas, nous avons déjà vu très longuement, il y a quelques années, cette idée de l'oracle divin, Taksen, c'est-à-dire le poème qui est donné par une divinité en réponse à la demande du croyant qui va passer, par exemple, une nuit au sanctuaire pour avoir un signe, Shirushi. Nous avons déjà parlé de ce phénomène bien attesté dans la poésie japonaise, et nous n'avons pas oublié que le poème est l'instrument privilégié de communication des dieux japonais avec les hommes. Nous avions aussi remarqué d'ailleurs que l'oracle poétique, le sac de Taksen, ne se trouve pratiquement jamais dans la bouche de Bouddha et de Bodhisattva. Ce sont presque toujours des kami. Puisque les manifestations concrètes des Bouddhas et des Bodhisattvas, les shirushi, ce sont plutôt des miracles, n'est-ce pas ? Des actions proprement miraculeuses. Chez les dieux, c'est plutôt de la communication, en quelque sorte. C'est bien ce qui se passe ici, donc, et l'héritier lésé poursuit, à partir de l'oracle, ce Taksen, sa propre réflexion sur ce monde, dont il dit « S'il est une chose en vérité vaine et inconsistante, c'est bien ce monde. » Passons sur ce sermon convenu qui mène le chef de famille à se couper le chignon laïque, n'est-ce pas, le motodori, et à se retirer à Shirakawa sans prévenir sa famille. Encore une fois, le thème de la famille est contraire au shukke, n'est-ce pas, à celui qui quitte la famille, justement. Il se livre dès lors à la récitation du nom de Bouddha, au Nembutsu. Averti de la chose, sa femme finit par le retrouver et se résout à l'aider dans sa pratique. Et alors, tout finit bien, n'est-ce pas, la femme fait en quelque sorte l'intendance de l'ermitage, et puis l'indélicat qui avait privé le maître de maison de son héritage, ayant eu vent de cette conversion, il est pris de remords et il restitue le bien, non pas à l'ermite, bien sûr, puisqu'il a quitté le monde, mais à l'épouse. Restons-en là de ce second épisode que nous lirons en séminaire, et allons directement aux dernières lignes, qui tirent encore une fois une morale assimilationniste, c'est-à-dire fondée sur la doctrine du Honji Suijaku, n'est-ce pas, les traces descendues des bases originelles que sont les Bouddhas, donc les dieux comme traces descendues, est liée au fait que l'oracle qui a décidé cette vie nouvelle provenait d'un dieu. Or, cette morale s'exprime ici de façon curieuse. Elle est plus riche que tout à l'heure, mais puisque nous avons une véritable restructuration à l'aspect vénérable et scolastique, n'est-ce pas, qui est fondée sur des formules ronflantes que nous allons citer telles quelles. Alors, suivez simplement le texte, je ne vous le lis pas. L'auguste grâce consistant à adoucir sa lumière pour le bénéfice des êtres attire toute notre gratitude. Vous voyez, ça commence par Wako Nimotsu. Et nous verrons tout à l'heure, vous avez donc Wako Nimotsu. Et vous voyez qu'à la quatrième ligne, vous avez Zorui Dojin. C'est-à-dire Wako Dojin, l'expression Wako Dojin est scindée en deux et se retrouve donc au début et à la fin. Bon, c'est un procédé auquel nous sommes habitués dans les textes bouddhiques japonais. Et vient ensuite, après ce démarrage, une citation que j'ai mise ici entre crochets, tout en kanbun, n'est-ce pas, tout en sino-japonais, et d'un aspect parfaitement canonique. On a l'impression que c'est une citation de sutra, qui est d'ailleurs, elle est en partie inspirée du sutra du lotus. Si on le lisait comme un sutra, hontai rushana kuon jo shokaku ido shujoko jigen daimyojin kore nari. Ce qui veut dire, le Bouddha Vairochana, en sa substance originelle, Hontai, dont l'éveil parfait est réalisé de toute éternité, Kuonjo Shokaku, un extrait du Sutra du Lotus, afin de délivrer les êtres, qu'on trouve aussi dans le Sutra du Lotus, Jigen Daimyojin, Daimyojin O Jigensu, Shitamo, et là, on ne le trouve pas dans le Sutra du Lotus, bien sûr, parce que afin de délivrer les êtres, le Bouddha Vairochana, donc, leur apparaît sous la forme des grandes divinités Daimyojin. Ce n'est absolument pas chinois, mais ça, c'est du pseudo-chinois, c'est-à-dire les grandes divinités Shinto. Cette citation ne provient d'aucun sutra, puisque le terme Daimyojin est japonais et désigne les Suijaku, les traces descendues. Il s'agit d'une pseudo-citation visant à légitimer l'importance que le Senjusho accorde à l'action des dieux dans le salut des hommes. La dernière phrase est le pendant de celle qui précède la pseudo-citation et restitue la phrase complète Wako Dōjin, je vous la traduis simplement, que les ainsi venus, éveillés de toute éternité, s'assimilent à la poussière, Chilini Dōzu, des diverses espèces, des diverses espèces d'êtres, et tout spécialement dignes de gratitude. Nous avons dit donc ici. Excusez-moi, j'ai répété la phrase. Nous avons donc ici une justification beaucoup plus savante qu'au premier épisode, mais de même portée. Le premier épisode se contentait de parler des dieux. Ici, il apporte une citation pour conforter cette idée. Nous remarquerons cependant que la mention du Honji Suijaku est explicite, alors que l'épisode précédent ne parlait que des dieux. Et ici, Mahavairochana, Dainichi Nyorai, n'est-ce pas ? Rushana, c'est Mahavairochana, l'autre, le nom sanskrit de Dainichi Nyorai, et qui est bien identifié comme la base de Amaterasu, par exemple, Daimyojin. Alors oui, excuse-moi, le katabila, c'était pour ici, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous avez vu ce qu'était un katabila, n'est-ce pas ? Le troisième épisode, donc, qui est intitulé dans la plupart des versions « Un moine errant restitue une veste », Muenso, n'est-ce pas ? Un moine sans attache, en no nai, yukari no nai so. Alors, c'est Muenso no katabila gaeshi. Passons sur ça, ne devrait pas nous retenir trop longtemps. Passons sur sa situation chronologique. Je ne vais pas insister sur ces détails, ce n'est pas grande importance. C'est en tout cas donné ici comme une. Le protagoniste, en tout cas, n'a pas eu de rapport direct avec Saigyo. C'est une histoire rapportée qui précède l'existence de Saigyo. Donc, le récit décrit un moine errant mendiant sa nourriture dans les rues de Kyoto, mais qui ne prend que ce dont il a besoin et qui refuse tout superflu, et en particulier ce katabila que veut lui offrir une bonne âme, et qu'il, donc c'est une sorte de veste, n'est-ce pas, et qu'il lui restitue. Pour ce qui est de l'aumône de nourriture, il la refuse aussi s'il a pris son repas quotidien. Donc il refuse de stocker de la nourriture, en quelque sorte. Le texte ajoute qu'il n'a pas l'air d'un moine savant. Bien qu'il psalmodia l'invocation du Bouddha, je cite ici, récita les passages essentiels des Écritures et parut plongé en méditation, omoi iritaru sama. Pour ce qui est des textes doctrinaux, Hōmon no kata niwa, Hōmon no hō niwa, n'est-ce pas ? Pour ce qui est des textes doctrinaux, il en paraissait assez éloigné, Mote hanaretaru sama. Le terme de Hōmon est crucial ici, et ceux qui ont suivi le cours depuis le début reconnaîtront son importance dans la perspective qui est la nôtre. On se souvient en effet que les poèmes japonais à thème bouddhique, les shakkyoka, je ne reviens pas sur ce terme, comportent un sous-genre appelé Homonka, Homon no Uta, que nous avons traduit par poème scripturaire, dont le principe de composition est qu'il est rédigé à partir d'une citation d'un texte canonique, le plus souvent le Sutra du Lotus. Nous n'avons ici qu'une partie du terme, qui désigne généralement tout texte doctrinal et plus généralement canonique. Donc ce n'est pas Homonka, mais c'est simplement Homon. Ce ne sera pas la peine de chercher plus loin que ce sens général. Il est certain que le terme « homon » se réfère à toute écriture bouddhique, un texte bouddhique, n'est-ce pas, un « kyo », ou bien parfois un « ron », n'est-ce pas, c'est un traité bouddhique d'un grand docteur comme le Makashikan, par exemple. Toujours est-il que notre moine errant, qui est appelé dans la première partie du texte « so », tout simplement « moine », rencontre un saint homme, un hijiri. Hijiri, c'est le caractère que nous avons vu tout à l'heure dans la lecture shonin, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le saint homme, dont le nom diffère selon les versions, vous voyez. On l'appelle soit Geisai, soit Inzai. Bon, je ne reviens pas là-dessus, ça n'a pas beaucoup d'importance. Or, se trouvant confronté à ce Higiri, notre sot, n'est-ce pas, le moine se voit demander de façon presque agressive ce que nous avons ici. Kokoro no haruki haberu homon shitokotoba no tamawasayo. Donnez-moi d'un seul mot, shitokotoba, un texte de loi qui éclaircisse la pensée, c'est-à-dire qui mène à l'éveil en dissipant les brouillards des passions de l'ignorance. On s'attend donc à ce que le moine errant réplique par une citation scripturaire percutante. C'est normal. Au monde, c'est ça, hein, on ne peut pas. Mais bien sûr, et c'est le sel de cette narration, ce n'est pas du tout ce qui arrive. Et nous dit le texte que je vous invite à suivre ici. La première citation, c'est la narration. La seconde citation, c'est le poème. Voyant sur une haie voisine, Sobana no Kakini, un asagao, n'est-ce pas, on le traduit souvent par hippomée, on pourrait dire une phrase, une fleur de liseron, n'est-ce pas, voilà, c'est ce que j'ai trouvé comme illustration, ou bien de volubilis, je ne sais pas, je garde hippomée pour l'instant, si vous voulez. Donc, voyant sur une haie voisine une hippomée épanouie, sur laquelle de la rosée s'était déposée, rosée que le vent soufflant par hasard à ce moment-là, horifushi, n'est-ce pas, soufflant par hasard à ce moment faisait tomber, il dit, les yeux embués de larmes, Uchinamina kumite. Et voici ce qu'il dit, ce poème. Je ne vous lis pas parce que le temps passe très, très vite et nous n'avons vraiment. Voyez-vous combien vainement elle a fleuri la fleur de l'hippomée pour que l'ait précédée la rosée de ce matin. Donc vous avez éphémère sur éphémère, n'est-ce pas? Et il ajoute cette phrase importante. Je ne l'ai pas donné ici, mais enfin, Kore homon nari. Voilà votre citation scripturaire. Kore koso homon yo. Voilà votre citation scripturaire. Et brusquement, comme sono no chiwa, sono gowa, izuchie ka sasodae yukiniken, futto mietamawazu tonan. Et donc brusquement, il disparaît, reprenant ses errances, sans que l'on sache où il est parti. Le côté quasiment miraculeux, vous voyez qu'à la fois ce futto indique vraiment une disparition brusque, mais il atténue un peu en disant qu'il part pour repartir, mais le côté miraculeux de l'épisode est accentué par le fait que le moine, qui était alors qualifié de sot, tout simplement, le moine, après cette lecture, après cette déclamation de poème, est appelé Higiri à son tour, c'est-à-dire le saint homme thaumaturge, le moine muni de puissance, n'est-ce pas, de pouvoir. S'ensuit alors une longue digression, naturellement empreinte de bouddhisme, sur l'impermanence. Mais nous ne nous attarderons que sur ces quelques lignes où l'exégèse du poème est donnée de façon très instructive. Ce n'est pas d'une grande originalité, mais elle ne manque pas d'intérêt. Voici ce qu'il dit. Le poème lui-même, Utasae, Arigataku Haberu Zoya, le poème lui-même, comme il est digne d'intérêt. Certes, la fleur de Nipomée est un exemple bien connu de tout ce qui est périssable, mais la rosée qui l'a précédée sur la fleur, une fois tombée, laisse encore moins de traces, et le vent qui est passé de son souffle n'a nul lieu visible où s'arrêter. Que fait ici le narrateur, donc, même si c'est Saigyo ou ne c'est pas Saigyo, il ne fait que reprendre à la lettre l'histoire qu'il nous narre. Le poème, donné par le moine en réponse à la requête du saint homme, est un homon. Le poème devient un homon, un texte scripturaire. Et le poème est un homonka, un poème scripturaire. Il doit donc faire objet d'exégèse, puisqu'il se rapporte à une écriture canonique. L'écriture, ici, n'est autre que le livre de la nature, si l'on peut dire. Ce serait, en quelque sorte, un exemple où l'inanimé prêche la loi, mujo seppo. Nous retrouverions très facilement dans ce passage des échos de la citation que faisait Kawabata du dialogue entre Saigyo et Mioe. mais ce n'est pas la peine de nous étendre davantage ici. Tout le reste de cet épisode est consacré à la description de l'impermanence et à l'inquiétude à l'égard des renaissances à venir. On n'y trouvera pas d'allusion aux dieux, mais nous relèverons, car il faut le faire dans le cadre de notre enquête, le pouvoir métamorphique du poème japonais. Le moine errant se voit demander une citation scripturaire. Il se livre à un exercice de transsubstantiation, si vous me pardonnez cela, ce terme, à une alchimie verbale. Il prend un exemple, Tameshi, à la fois concret, puisqu'il a la haie, le kaki sous les yeux, où il y a le asagao, et littéraire, puisque c'est un exemple bien connu. Et il en fait un poème japonais et le définit comme texte scripturaire. Si l'on prend garde à l'enchaînement des épisodes, cette métamorphose poétique intervient après l'épisode de l'oracle poétique donné par la divinité Dissé. Et l'on se trouve dans la même situation, un poème change la vision du monde. C'est si vrai que le moine errant change aussitôt après de statut pour devenir un Hijiri, un religieux muni de pouvoir. Et il disparaît, comme toute apparition. Nous avons bien ici un Jigen, c'est pas comme nous avions vu tout à l'heure. Malheureusement, nous devons quitter cet épisode, dont j'espère que nous reverrons quelques détails en séminaire. Mais je voudrais, alors, le plus rapidement possible, passer au quatrième épisode, dont le prétexte est fort mince. Il est intitulé Shichijo no Kōgo, littéralement l'impératrice de la 7e avenue, Shichijo no Kōgo, et qui se rapporte tout entier à un fait historique que nous connaissons par l'histoire littéraire. Il s'agit donc la dame de la 7e avenue, n'est-ce pas ? Il s'agit de Fujiwara no Onshi, qui était dame de cour et concubine de l'empereur Uda. Et vous voyez donc que nous sommes au 9e siècle, n'est-ce pas ? Bien avant Saigyō. Donc vous avez les dates ici, 872-907. Elle était d'abord dame de cour, concubine de l'empereur Uda, née en 873, mort en 937. Et elle sera la mère de l'empereur Daigo. Les noms sont donnés ici. Elle eut pour dame poète, de compagnie la célèbre poétesse Issé, qui s'écrit comme le sanctuaire d'Issé, 872-938, qui doit son nom au fait que son père fut gouverneur de la province d'Issé, ce qui fait bien sûr le lien avec le sanctuaire. À la mort de celle que l'on appelait aussi Higashi Shichijo no In, n'est-ce pas là, la personne de Shigashi Shichijo, Issé fit un long poème, un nagauta, donc, long pour la poésie japonaise, puisque donc ce n'est pas un waka, il y a 27 vers, c'est parce qu'il est pratiquement une épopée à l'échelle japonaise, et qui est l'un des 5 nagauta qui est consigné au livre 19 du Kokinshu, du Kokin Wakashu, qui est compilé, je le rappelle, en 905, justement au moment où la Shichijo no Kōgo, n'est-ce pas, entre en religion elle-même. Alors, c'est une très belle description élégiaque du désespoir né de la disparition de la personne dont Issé était la dame de compagnie, mais en même temps la rivale, il faut dire, puisque la dame d'Issé était devenue à son tour concubine de l'empereur Uda. Je n'insiste pas sur ces histoires d'alcôve, je vous donne simplement... Alors, je vous lis très rapidement ce poème. À ma connaissance, il n'y en a pas de traduction française. Alors je vous en donne une très simple qui ne fait que lire, que suivre presque mot à mot les vers et en donnant la teneur générale. Alors, en ce palais, c'est Miyanouchi, n'est-ce pas, le troisième vers. En ce palais, je ne peux malheureusement pas suivre vers par vers, c'est un peu trop difficile. Et je vous donne un texte qui est tout en hiragana que j'ai trouvé sur les databases, n'est-ce pas, les sites de données sur la poésie japonaise sur l'Internet. En ce palais qui tombe en ruine, auprès des flots, j'ai passé des années telle une pêcheuse d'Issé, Issé no Amamo, n'est-ce pas, la deuxième ligne, dont l'esquif est à la dérive, dans le même état d'esprit, je n'ai où aborder donc, que les pêcheuses. La couleur pourpre de nos larmes, pas seulement les siennes, mais de toute la suite de Shichijo no Kogo, la couleur pourpre de nos arbres, qui sont parmi nous comme les froides ondées, comme les érables d'automne, qui sont parmi nous comme les froides ondées. Comme les érables d'automne, les gens du palais se dispersent tour à tour et finissent par se séparer, sans ombre, n'est-ce pas, kagenaku, sans protection à laquelle s'en remettre. Tout est fini. Pour ceux qui demeurent, miscantes en fleurs, alors pour vous donner une idée de ce que ça peut être, voici ce que cela représente, n'est-ce pas ? Miscantes en fleurs, au jardin où la souveraine n'est plus, ils se dressent en grappes et appellent vers le ciel, où les premières oies sauvages qui passent en criant ne les regardent pas. Il s'agit certes d'un très beau poème où se mêlent la tristesse personnelle et le désarroi social de tout un groupe qui a perdu son ombre kage, n'est-ce pas, son ombre protectrice. On remarquera le jeu de mots que fait la poétesse elle-même sur Ise no Hama, la pêcheuse d'Ise. Elle fait allusion à son propre nom, n'est-ce pas, elle était déjà connue comme poétesse sous le nom de Ise, et donc elle se présente comme la pêcheuse ou la plongeuse, même si vous préférez, d'Ise. Mais en même temps, Ama veut dire la religieuse, n'est-ce pas ? Ama, okay. Donc, elle est à la fois pêcheuse d'Ise et Ise la religieuse. Et elle, bien qu'elle-même aussi, à la mort de l'empereur Uda, entra aussi, au moins choisit la vie érémitique. Ça ne dura qu'un an, puisqu'elle disparut un an après la mort de l'empereur. Mais ce n'est pas pour sa beauté et son caractère poignant que le poème est mentionné ici. Cet épisode du Senjusho nous dit en effet qu'un courtisan de troisième rang, Sammi, n'est-ce pas, du nom de Kuniyuki, je vous donne ici, à la lecture de son poème, s'en trouva si ému qu'il décida sur le champ de se couper lui aussi le chignon, Motodori, et d'abandonner femme et enfant et d'entrer dans la vie religieuse. Suit alors une description de la contrainte des liens familiaux, des biens et des obstacles qu'il pose à qui veut suivre la voie du salut. Ce récit assez court se termine par un bref éloge du courtisan dont on perdit toute trace. Mais voici la dernière phrase. Ojo no sokai o togetamai naba. Pour réaliser son aspiration à la renaissance, qu'il eut pour premier guide et sauveur, Saisho no Injo no Shitoniwa. Nul autre qui sait, cela ne peut malgré nous que nous émouvoir. Ise. Nous avons vu que dans le poème même, la dame d'Ise joue sur le nom et le toponyme. Elle est une religieuse d'Ise. Ise no Hama, c'est presque un oxymore, n'est-ce pas ? Ise, l'endroit no bouddhique, Hama, la religieuse. Le narrateur continue le jeu et retourne à son intention première. La personne d'Ise, Ise ici, n'est autre que la divinité d'Ise. Cette conclusion est magistrale et montre de façon claire le caractère systématique de la conception salvifique de la poésie, même non bouddhique. Ce poème, qui n'est jamais, il est dans le Kokinshu, n'est pas considéré comme un poème bouddhique, mais ici, le narrateur qui le met dans une suite où à chaque fois c'est un dieu ou dans un sanctuaire shinto qu'est donné un précepte bouddhique, il met ce poème de la dame d'Ise avec le même rôle salvifique qu'un poème bouddhique. Et ce sont les dieux eux-mêmes, en quelque sorte, qui rendent bouddhique cette poésie. Voilà très rapidement fait le tour de ce premier livre. La prochaine fois, nous aborderons le second et je vous remercie pour aujourd'hui.